Tu sais, marche par la foi et pas par le vous. Je propose juste de donner un, avant j'entre dans le message, juste une méditation pour nous. Méditation, pensée. Quand on écoute un message, quand on est en train de faire quelque chose dans notre travail, quand on est ensemble dans une fête d'anniversaire, que c'est organisé une fête d'anniversaire, quand on est dans une fête après le baptême, voir pas les choses comme une série de tâches à faire. Nous avons cette tendance humaine de penser, cette semaine, j'ai 10 choses à faire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 10 choses à faire. Et pour arriver à la 10e, je dois courir, je dois stresser, je dois lutter pour arriver à cette chose. J'ai une réunion, par exemple, dans la ville de Genève, lundi à 10h. Et donc, on bat pour arriver et faire toutes ces choses. Et Dieu est en train de dire, repose dans ma présence. La clé n'est pas de faire des choses, la clé est de sentir, expérimenter sa présence. Et je dis ça pour dire que ce n'est pas une question de moi d'essayer de forcer un message et communiquer un message avec ma propre force. Et ce n'est pas pour vous de écouter le message et dire, wow, ok, après je vais manger, ou voilà, ça c'est une bonne chose, mais je n'ai pas compris son accent ou prononciation, ou je ne comprends pas ce verset. Essaye d'entrer dans le fleuve avec l'esprit. Moi aussi, je dois apprendre à faire ça. Profite de la présence de Dieu, ça c'est ce que je voudrais dire. Pas assez de penser, je dois méditer, je dois comprendre ce message. Non. On vit ici, on ne vit pas là. On vit dans la présence de Dieu. On a une vie spirituelle. Et là, on peut expérimenter. Ce n'est pas juste dimanche matin, le culte, je dois faire ça, Rassure va chanter, Rob avait dans les annonces, après on va nettoyer ça. Non. Expérimentons la présence de Dieu maintenant dans la présence. Je parle à moi, je parle à nous tous. Et donc, en termination de ça, juste goûter et manger que le Seigneur est bon. Manger la parole et dire, wow, ça c'est super. Oh. C'est ça, c'est la clé. La clé de la vie spirituelle, c'est pas de faire des choses, mais expérimenter la personne de Jésus-Christ. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Arrêtons et sachons qu'il est Dieu. Et maintenant, on va entrer dans le message. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Sans toi, on ne peut rien faire. Ce n'est pas ma force. Je veux que tu m'utilises pour exprimer une idée, un concept spirituel, afin qu'avec tout mon être, je puisse communiquer ça, afin qu'il y ait une transformation dans ma vie et dans la vie de chacun. On veut ta présence. On t'invite ta présence de nous toucher ce matin. Guérison dans l'âme, transformation, une touche dans notre être, Seigneur. Nos préconceptions, nos idées qui viennent de notre culture, notre famille, coupe, enlève et donne vraiment tes pensées, Seigneur. Merci. Sois glorifié. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la vie d'Abraham, Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, je vais tourner là. Verset 17 à 24. 17 à 24. Ok, juste pour donner le contexte. Le chapitre précédent, Abraham et Lot sont partis dans deux directions différentes. Lot était le neveu. Et cet neveu, il a un croyant, mais un croyant charnel. Et lui a choisi de prendre une autre direction. Il a voulu tous devant Sodome, la ville de Sodome, il pense, super, ça c'est magnifique, je peux faire agriculture, je peux faire la cultivation, je suis riche, j'ai des animaux, des bêtes, j'ai une richesse grâce à Abraham, mais maintenant je peux couper mon, tracer mon chemin, mon propre chemin. Séparation entre la chair, la pensée charnelle et la vie spirituelle, en fait. Les deux ne peuvent pas rester ensemble. Bien sûr, il arrive d'entrer en Sodome. On peut voir quelque chose qui commence bien, moralement, finalement, arrive dans une ville de la méchanceté, abomination inimaginable. Fais attention avec ça, de ne pas essayer de faire les bonnes choses, de prendre un chemin qui semble bien. Et après, on arrive dans le, presque en enfer, on vit en enfer, influencé par le mal. Donc, il arrive, il reste dans la ville, nous avons une guerre entre le roi de Sodome et certains qui sont avec lui. C'est les principautés, en fait, c'est pas le roi, c'est ceux qui gèrent une ville. Et une guerre entre eux et quatre autres rois, avec un qui est le souverain de leur territoire. Donc, une rébellion. Et Lot était enlevé parce que lui, il est parti de Sodome. Donc, évidemment, pris avec sa famille. Et Abraham, qui n'a rien à faire avec Sodome, ça c'est important de savoir, il ne veut pas avoir aucun contact, aucune relation, aucune communion avec Sodome, avec le roi. Et donc, il voit qu'est-ce que se passe. Et avec ses serviteurs, il a décidé d'attaquer, lutter, faire une guerre, une bataille, et pour chercher et sauver Lot et sa famille. C'est pas du tout pour Sodome. Il n'était pas dans une guerre pour aider Sodome, c'était une guerre pour sauver Lot. Et donc, on arrive ici, il a vaincu, victoire, et maintenant, dans ce passage, il retourne, et il est maintenant, croise un homme, on ne sait pas qui, on sait son titre, Melchizedek, roi de justice, roi de la paix. En fait, il est un roi païen avant. En fait, Abraham était le premier hébreu, donc c'était avant. Il n'est pas parti d'Israël de tout. Et Melchizedek, il a présenté quelque chose, il a béni Abraham. Et on voit après une histoire avec le roi de Sodome qui vient pour dire, OK, on fait quelque chose ensemble. Super que tu as renversé notre défaite, notre échec. Tu peux prendre toutes les richesses, tu prends les peuples. Et bien sûr, avec Sodome, Abraham a dit, je n'ai rien à faire avec toi, je ne touche rien afin que tu puisses dire après, je suis enrichi et j'enrichis Abraham. Et Abraham peut dire, voilà. Donc, un contrôle sur Abraham. Il dit non, je rentre pas dans son jeu. On va faire autre chose. Tu peux avoir les choses qui sont justes, mais après ça, je vais juste prendre Lot, je vais prendre sa famille, et voilà, après ça, j'enlève. Donc, en fait, avec ce résumé, on peut voir certaines choses qui sont importantes dans la vie d'Abraham. On peut dire, quelle est la significance pour nous? Quelle est l'application? Quel est le principe qu'on peut apprendre de sa vie? Et je note 7 points et on va aborder brièvement ces 7 points. C'est applicable pour nous tous. La Bible est applicable aujourd'hui pour nos vies. Et le Saint-Esprit va peut-être mettre le doigt sur nous et dire, écoute, je parle directement à toi maintenant, pas à les autres. Donc, chaque parole est pour nous personnellement, c'est pas pour ma femme, c'est pas pour Robert, c'est pas pour les autres, c'est pour chacun. Donc, si Dieu nous touche avec ça, bravo. OK, je vais tourner juste avant ça pour donner le premier point. Le premier point est ça, Genèse chapitre 12, verset 1. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va de ton père et de ta parente et de ta maison de ton père et donne la paix que je te montrerai. Donc, en bref, il a parti, il a séparé de sa ville, de sa famille. On sait en réalité qu'en fait, Abraham a suivi son père et son père était mort dans une ville. Et après, Abraham est appelé de nouveau, une deuxième fois, pour marcher et entrer dans cette vie avec Dieu. Mais la clé ici, si on voit ça, est que le Seigneur a appelé Abraham d'une consécration. C'était pas important la destination. La chose qui est importante est d'entrer dans l'appel de Dieu. Et pour nous tous, l'application de ça, c'est pas une question de qu'est-ce que tu veux me faire, qu'est-ce que je vais faire pour toi, Seigneur. La question est plutôt, je veux ta présence. C'est pas une question de Abraham dit, on va aller où? Est-ce que je n'ai pas un GPS, je n'ai pas un car? Non, suis-moi. Suis-moi. Mais on va aller où, Jésus? Pierre, Jean, peut-être il peut poser les questions. Suis-moi. C'est pas important. Fais confiance en moi. Et plus de ça, c'est pas une question de destination ni de direction. C'est une question de communion avec Dieu. C'est une question de laisser tomber quelque chose afin pour gagner beaucoup plus. C'est une séparation. Si Dieu peut-être nous dire, je vais vous amener en tel pays ou tu vas aller dans cette destination en Suisse, tu vas rester là-bas. Non. Peut-être on va dire finalement, je ne suis pas du tout intéressé de faire ça. Pierre, tu vas être martyrisé. Tu vas aller dans cette ville, tu vas être croisé Cornelius. Tu vas avoir des problèmes avec les Romains. Peut-être Pierre va dire, je vais passer avec ça. Je retourne mes poissons. Mais c'est ça. Il ne dit pas les choses qui peuvent passer. Sauf que quand tu étais jeune, Pierre, tu vas aller quand tu veux dans une direction de faire des choses. Et quand tu es vieux, tu vas être pris pour quelqu'un et amené dans une place que tu ne veux pas aller. Et donc, simplement de voir que ça commence avec un choix. Nous sommes là parce que nous avons choisi ce matin et on ne sait pas en réalité qu'est-ce qui va passer après. Peut-être qu'on ne va jamais retourner dans nos maisons. Peut-être que Dieu va nous enlever. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer. N'acceptons pas d'entrer dans la familiarité d'idée. Après, je vais faire ça, 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 ça. Jacques, chapitre 5, qu'est-ce que se passe? Jacques attaque les riches. Il dit, vous dit que vous allez dans cette ville, dans cette année, et tu vas gagner certain argent, et tu vas retourner faire quelque chose. Non. On ne sait pas, quand on vit cette vie spirituelle, qu'est-ce qui va se passer. C'est la présomption de dire, voilà, je vais faire ça après, et ça, et après ça. Oui, faire des plans. Faire des plans, préparer des choses, faire un gâteau, par exemple, nettoyer la maison. Oui, je dois faire ça cette semaine. Oui, bravo. Mais ferme pas le Seigneur dans vos plans. Moi, ne ferme pas le Seigneur dans mes idées. Qu'est-ce que je vais faire en dimanche? C'est une consécration. S'il m'a appelé de suite, je ne sais pas où je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire après, honnêtement? Il va dire, peut-être tu vas aller croiser le roue et tu vas parler avec quelqu'un. Je dis, moi, mais c'est dimanche. On va manger après. Non, tu vas me suivre. Et la bénédiction avec cette consécration est ça, le deuxième point. Genèse chapitre 12, verset 2. Abraham et tout sera une bénédiction, une source dans le second de bénédiction. Est-ce qu'on veut être une source de malheur pour les autres? Une source de peur, migao missib en Jérémie. Un homme qui a posé Jérémie, et Jérémie a dit, tu vas être appelé peur dans tous les côtés et tu vas voir la peur infecte les autres. Ça, c'est une malédiction. Jabez, tu es né Jabez parce que tu es douleur et tu vas amener la douleur avec les autres. Non, Seigneur, j'accepte pas mon nom. Je vais être une source de bénédiction dans ma vie. Je veux que ma vie va compter pour l'éternité, que j'ai laissé une trace éternelle sur la terre. Je veux que quand je entre dans une salle où je suis en contact avec quelqu'un, que je peux voir le Seigneur, je peux voir sa présence. Je vois les gens que j'aime et je vois le contact avec les autres. Je pense bénédiction, source de bénédiction, source de bénédiction. Wow! On est une rivière, un fleuve qui vient de haut. Est-ce que c'est Psaume 32? Je ouvre ma bouche parce que ma langue est la langue d'un écrivain. Et c'est pas dans le même psaume de la grâce coule de en haut et touche ma lèvre. Ça parle de la grâce de Dieu. Cette grâce qui tombe, qui touche les lèvres. Pourquoi? Parce que ma bouche peut exprimer une bénédiction. Merci, c'est 145. Je pensais peut-être que c'est 32, 45. J'ai trompé. Merci. Donc, que je peux être une bénédiction, pas que je bénis les gens. Je suis une source de bénédiction. Est-ce que je peux être une source de bénédiction comme Abraham dans ma ville, dans ma village, dans ma maison, dans ma famille, dans la retraite? Je peux être une force de bénédiction dans l'hôpital pour Christian, pour Priscilla, Eric, une source de bénédiction dans sa vie. Robert, une source de bénédiction. Horacio, Marion, Marie-Pierre, Isabelle, Monia, nous tous. On peut être utilisé par le Seigneur lui-même. Et la seule limite est notre désir de vivre notre propre vie. Parce qu'on a peur de les choses qui sont inconnues. Je sais que le Seigneur, on a une vie maintenant, on est limité peut-être par l'argent, par notre peur, par notre lit. On a peut-être certaines choses qui nous bloquent. Le Seigneur dit, sors avec moi. Viens évangéliser à Vesmin et Collonges-Bellerive. Quel est le problème? Juste marche avec moi. Ce n'est pas la clé d'accomplir quelque chose. Oui, il est le but éternel de Dieu. La clé est ça. Sortez de chez toi, sortez de ton tempérament, ta caractère, et entrer dans la nouveauté et être une source de bénédiction pour les autres. Et quand nous sommes une source de bénédiction, c'est rien à faire avec nos émotions, notre état, c'est tout à faire avec notre relation avec Dieu. On peut être épuisé, on peut être tombé malade, mais on peut être toujours une source de bénédiction. Suivons. Tout vient de Dieu. Genèse chapitre 14, verset 22. La clé ici, tout est lié avec cette consécration, ce premier point. Tout c'est lié avec ça. Le début, je parle peut-être, Isabelle va être peut-être sentie pas à l'aise, mais le baptême est un déclenchement dans sa vie parce qu'elle a pris une décision, elle a pris une deuxième décision. Première décision, c'est sauver. Deuxième décision, baptême. Et la clé est maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire après? Commence avec la consécration. Ici, en Genèse chapitre 14, verset 22. Verset 22, Genèse 14. Wow. Une confession contre une force démonique dans une vie d'un homme, c'était le roi de Sodome. Une confession qui vient d'en haut. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Tout ce que j'ai appartient de Dieu. Rien n'est par mes propres efforts. » Abraham peut dire ça. « Oui, je suis riche matériellement. Oui, j'ai gagné une bataille. Oui, les spoils, toutes les choses que j'ai gagnées et les captives, tous viennent et maintenant appartiennent de moi. Oui, c'est vrai. Mais le fait que je suis vivant après cette bataille et le fait que je suis victorieux grâce à Dieu, tous viennent de Dieu. C'est une grâce. Le fait que nous sommes là, c'est une grâce. Le fait qu'on est vivant toujours est une grâce. Il a accepté que sa vie est une grâce. Il ne mérite rien. Et nous aussi. Si nous avons ce concept que nous sommes ici en Suisse ou en France, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons une maison, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons un appel, c'est par la grâce de Dieu. C'est rien vient de moi. Je suis un vase d'honneur pour le Seigneur. Je suis là pour être utilisé par le Seigneur. C'est rien à faire avec mes propres efforts. C'est pas parce que j'ai prié 30 minutes ce matin. Bravo si vous avez prié 30 minutes ce matin. Tout vient de Dieu. C'est par la grâce que Abraham peut dire ça. Et le déclenchement de ça, dans le prochain point, Genèse 14, verset 20. Wow, il a donné une dîme. Il a donné une dîme. Abraham, lui, donnait la dîme de tout à Melchizedek. Melchizedek est un type de Christ. On ne sait pas s'il est le père ou la mère, parce que rien, on n'est pas informé dans la Bible de Melchizedek. Mais on sait une chose. Le supérieur bénit l'inférieur. Ceux qui sont plus, je ne sais pas le mot, mais lui qui est plus important bénit ceux qui sont moins importants. Donc, il est un sacrificateur pour le Seigneur, Melchizedek. Il a béni Abraham et Abraham a donné son dîme. Le dîme, dixième partie, c'est pas la dernière partie, c'est pas le dernier 10%. C'est le premier 10%. C'est le meilleur. Pourquoi que les Lévites sont choisis? Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veux avoir le premier né. Le premier né d'un père et mère. Le premier fils. Le premier né dans l'Ancien Testament est important. Les Lévites sont mis à part pour être le premier, pour être proche de le Seigneur. La dîme, on parle de ça dans l'offrande, les dîmes, on donne nos dîmes dans l'Église. Mais voir ça, il voit plus. Ce n'est pas une question de l'argent. C'est une question de décision de bénir le Seigneur parce que le point avant était en fait. Tous viennent de Dieu. Tous c'est par la grâce de Dieu. Donc, je peux redonner à lui ces 10%. Parce que le 90% aussi vient de lui. Et s'il m'est béni avec 100% que j'ai maintenant, et je donne 10%, est-ce que le Seigneur peut utiliser dans le 90% qui reste, que je peux vivre une vie au-delà qui découle dans ma vie. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que j'ai 90%, mais 10% qui restent? J'ai dit, OK, je dois payer les facteurs. OK, dans le sens du temps, si je donne ma matin ici, dans l'église, pour consacrer, je vais avoir combien de heures? 3 heures? 2 heures? Moi, dans la semaine. Mais est-ce que le Seigneur peut redonner plus que si nous avons gardé ces 2 heures et pas accepté de venir à l'église parce qu'on est occupé avec autre chose? Est-ce que si nous avons gagné 500 francs suisses cette mois et on donne 50 francs, on va avoir 50 francs moins, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas la clé. Dieu dit, vous pensez logiquement, mais pas penser comme moi. Le 450 va aller plus loin. Tu vas découvrir que tu peux payer les factures. Tu peux acheter des choses. Parce qu'en fait, quand tu décides de faire ça, tu fais confiance en moi. Et je peux déclencher les choses au ciel pour descendre, Malachie chapitre 3, et tu vas être béni au-delà de ça. Une vie bénie parce qu'on donne un dîme. Le dîme est l'argent. Oui, on parle de ça. Et l'Église est bien sûr bénie quand on donne notre dîme. Mais vos vies sont bénies. Et ce n'est pas l'évangile de prospérité que je prêche ici. C'est simplement une loi spirituelle. Quand on redonne les choses que Dieu a données, Dieu peut donner beaucoup plus dans nos vies. Sa présence. Est-ce que c'est un miracle ce matin que nous avons payé avec Dieu? Est-ce que c'est un miracle que nous pouvons avoir réconciliation et pardon avec quelqu'un parce qu'on donne librement les choses que nous avons reçues? Est-ce que notre vie est de passer par les problèmes cette semaine qui va nous confronter parce qu'on a accepté de donner la première partie de notre semaine au Seigneur? Parenthèse. Genèse chapitre 1, le premier jour a commencé dans le soir, le deuxième, le soir, le troisième. Lisons ce passage et on va voir quand il dit c'est le premier jour, c'est le soir et le matin. Application de commencer quelque chose le dimanche soir, une façon d'entrer dans la semaine avec le Seigneur. Donc, le clé pour nous est d'accepter de donner la meilleure chose au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire, créateur de l'univers, créateur de nous tous, qui nous voue, il a nous voue dans le ventre de notre mère. Et il a dit, je t'aime, je te choisis avant la fondation du monde, je prépare un chemin, le quoi, Jésus-Christ sur le quoi. Parce que c'est une préparation de vivre quelque chose. Est-ce qu'on est prêt de laisser tomber la banalité de la vie, et c'est banal des fois, d'entrer par la foi, donner cette dîme de temps, dîme de relation, dîme de l'argent, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt à donner nos premières pensées au Seigneur? Je dis ça à moi. Est-ce que je suis prêt le matin de pas dire, oh, c'est le matin, je dois sortir du lait? Non. Est-ce que je suis prêt de dire, je vais donner par la sacrifice, parce que c'est un sacrifice, le premier moment avec le Seigneur? Est-ce que je peux dire, Seigneur, merci, la semaine a commencé. Merci. Avant, je travaille, je sais, je ne parle pas de moi, mais je parle de nous. De donner le premier moment avant que je commence à lancer dans les tâches à faire. Parce que ce moment est fondationnel pour entrer dans la semaine. Prenez 10%. Est-ce que vous avez un peu plus de temps? Oui, ça vous intéresse? Ok. Cinquième point, aucune occasion de donner au diable. Ça, c'est Genèse chapitre 14, verset 23. Verset 23, ok. Sodome, roi de Sodome, je ne touche des choses pas, je ne touche pas les choses de toi, qui appartiennent de toi. Prends tout. Je m'en fiche de ça. Je veux prendre les choses qui appartiennent de toi. Je vais être juste avec toi et je laisse pas une place pour le diable. Application dans notre vie, de pas avoir communion avec les œuvres infructueuses du ténèbre. Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Pas de laisser une place pour le diable, pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et Romains chapitre 13, verset 14, de pas laisser une place pour ma chair. Ça veut dire une provision afin que je peux pécher. Non, je coupe cette pente et je dis non. No going back. Je retourne pas back. Le quoi est devant moi? Le monde est derrière de moi. Arrière. Je vais aller et regarder devant. Aucune place dans la maison pour le diable. J'ai vécu ça dans ma vie, en bref. Quand j'ai vécu dans une maison avec des jeunes, quand j'étais là pour premier quelques ans, et on est entré dans une maison, on a senti que le diable est avec nous parce qu'il y a tellement d'opposition, des attaques, le dispute, et on a nous-mêmes dit, on a laissé une place pour louer. Aucun paye dans cette maison. Magnifique maison. Large, énorme, beaucoup d'espace, luxueux, on peut dire presque. Mais le diable entre. Laisse pas le diable entrer dans vos familles. Donne pas une place pour louer. Donne pas une place au roi de Sodome. Fais pas des négociations avec un homme de fer qui sont un peu injustes. Ne fais pas des affaires avec les gens qui disent, mais on peut faire un tout petit peu. Recoursé, ah, c'est pas un problème, personne va voir. Non. On est enfants de la vie et la lumière. On n'est pas des enfants de la ténèbre. Aucun contact avec des œuvres ténèbres, infructueuses. Ça, c'est le prochain point et on peut voir son Genèse chapitre 14, 22 et 24. Donc, pas de contact, pas de laisser place de lui. Pas d'accepter. Si on voit quelque chose comme ça, c'est pas légal. Expose-les. Ephésiens chapitre 5, verset 11. On peut condamner ces choses parce que toujours, quand le diable vient, quand il vient de le royaume de ténèbres, c'est quelque chose qui se cache. C'est pas ouvert et dit, voilà, je suis pas légal, je veux que vous pêchez, vous tous pêchez de faire des choses, remplis vos dossiers des impôts pour l'année et mettre cette... Non, il va être subtil. Donc, on peut dire non, rien faire avec ça. On ne touche pas ça. On ne va pas profiter de quelque chose qui n'est pas légal, quelque chose qui est immoral. Non, on ne touche pas. Et le dernier point, on a déjà touché un peu avec le dîme, mais laisse la première place pour Dieu. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. La raison que Abraham n'a pas accepté d'entrer dans une relation ou une alliance ou une affaire, un contrat avec le roi de Sodome était parce qu'il a vu Melchizedek avant. Si nous avons contrat avec Dieu, premièrement, on est protégé de peut-être pécher, d'entrer dans quelque chose qui va nous éloigner. Roi de Sodome, peut-être, peut éloigner Abraham. Et donc, c'est propice que Melchizedek arrive et il a parlé avec lui, béni, il a donné son dîme, contact avec Dieu. Premier contact avec Dieu afin qu'on est protégé contre les choses qui peuvent passer après. Et donc, en conclusion, Abraham n'était pas quelqu'un parfait. Il a fait des erreurs, comme nous tous. Il essaie de forcer le plan de Dieu. il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais finalement, il est un homme devant Dieu parce qu'il a gardé, cultivé cette relation. Il a choisi d'aimer le Seigneur en avance devant les autres choses. Et l'Église a plein de faire la même chose parce qu'Abraham, nous avons le même Dieu. Abraham, nous avons la même foi. On marche avec le Seigneur par la même foi qu'Abraham. Et donc, je vous encourage et je vous exhorte cette journée, cette semaine, marchant, être acceptant d'être consacré, mis à part par le Seigneur et prendre les décisions qui suivent. Et que nos vies peuvent être une source de bénédiction parce que tout vient par la grâce et on donne librement ce que nous avons reçu. Que le Seigneur vous bénisse.